Salut Charline.
Voilà.
Mais pourquoi tu...
Mais pourquoi quoi?
Non, rien, pardon.
J'ai décidé que j'allais installer dans ce bureau...
Une dictature, non?
Non, silence.
Oula, pardon.
J'ai décidé que j'allais installer dans ce bureau une gestion apaisée.
À partir de quand?
Bah ça a déjà commencé, figure-toi.
Ah, d'accord, c'était pas évident.
Mais pourquoi vous dites ça?
Mais calme-toi, merde.
La raison, ça suffit, là.
Pourquoi vous me parlez comme ça?
C'est la seule hôpital qui se fout de la charité.
Non, mais à quel moment tu t'es dit je vais rentrer dans le bureau comme une dingue et engueuler tout le monde?
C'est la France apaisée, non?
Pardon?
Bah, moi j'ai regardé le débat d'hier et. Et Marine Le Pen, son slogan, et c'est la France apaisée.
Oui.
Donc je me suis dit que c'était ça l'apaisement.
Ah bah non, c'est pas ça, non.
Ah bon?
Ben non, à mon avis, le slogan il devait être sous la pile de dossiers d'ailleurs.
Ah bon?
Ah oui, alors du coup, c'est ça.
Ah bon, bah alors l'apaisement c'est quoi?
Ben c'est con à dire, mais en fait c'était la réaction de Macron en face.
C'est Macron la France apaisée?
Non, c'est pas aussi clair que ça.
Mais enfin voilà, lui il veut expliquer de manière reposée, sans s'énerver, les choses.
C'est ça l'apaisement, quoi.
Voilà.
C'est faire comme Macron.
Oui,
ouais, okay, bah, ok, sujet 1, la poudre de perlimpinpin.
Oui,
sujet 2, les Galimatia.
Non,
et puis sujet 3, notre projet.
Calme-toi.
Ah merde, pardon, ça me reprend. Putain, c'est compliqué l'apaisement. Hein. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui s'empare calmement de l'actualité. Et voici les trois informations qui ne seront pas dans l'invective. Parce que c'est celui qui dit qui est, bien sûr.
Bim,
le débat d'hier soir. Bon, ben, bon esprit, tout s'est bien passé. Il aurait juste fallu penser à nourrir Marine Le Pen avant l'antenne, peut-être. Comment témoigne Emmanuel Macron à la sortie du studio?
Ah bah, je suis arrivé, j'ai pas eu le temps de poser le journal que votre chien m'a pris au volet.
Les coursiers à vélo se rebiffent. Comme les chauffeurs Uber, ils déchantent et ils s'organisent pour défendre leurs droits car ils ont des contraintes de salariés sans les avantages.
Moi, je me demande pourquoi je te paye.
Mais vous ne me payez pas, patron.
Un acteur a dit non à Brian De Palma. L'acteur belge Mouran Zeghendi a refusé... Pardon ?
Mourad.
Mais c'est ce que j'ai dit, non ?
Mouran, vous l'avez dit.
Ah,
c'est
non,
la chanteuse Mouran.
Mourad Zeghendi a refusé La mort dans l'âme, un rôle de djihadiste de Molenbeek dans le prochain film du réalisateur. Et toi, qu'aurais-tu fait ?
Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'irai pas.
Bien sûr. Et toi, tu préfères être un djihadiste des bacs à sable.
Et pour m'accompagner, j'ai à ma côté celui qui écoute beaucoup Moran.
Oui.
Pour ça qu'il l'entend partout. Celui qui, contre l'empire de la vanne, tente d'imposer le califat de la brève. C'est Alex Vizorek.
C'est pas entièrement faux. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, à 17h20, c'est la deuxième fois qu'elle est avec nous. Elle vient nous apporter la sagesse africaine que moi, j'ai déjà assimilée. Puisque je fais mien ce proverbe, certains hommes aiment tellement leur femme que pour ne pas l'user, ils se servent de celle des autres. Bonjour Rukyata Ouedraogo.
Bonjour à tous.
Il paraît que c'est un proverbe africain, vous me confirmez?
Oui.
Très bien. C'est peut-être pas votre préféré. De quoi allez-vous nous parler?
De l'éclipse.
Oh là là, très bien. 17h30, on aimerait parfois l'envoyer en Afrique, mais on n'est pas certain que son style de journalisme corresponde à tous les régimes politiques du continent. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Alex. Bonjour Charline. Bonjour à tous. Et ben moi j'ai évidemment suivi le débat d'hier soir en compagnie du groupe Les Jeunes avec Macron.
Oh,
quel âge tu as?
9 ans.
Oui, il est très très jeune. Très 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 jeune avec Macron.
Et enfin à 17h40, celle qui sait très bien ce qu'il faut me dire pour m'envoûter complètement, mais qui ne le dit jamais, c'est vous Clara Dupont-Mono. Bonjour.
Bonsoir Alex.
Voilà, de quoi on parle?
Du duel.
Du duel entre nous peut-être.
Allez, je me tourne vers celui qui a tout annulé pour nous. Vous obtenez d'abord un DUT d'électronique à Valenciennes.
Non, à Rennes.
À Rennes.
Ah, à bon, Rennes, ouais.
On fait beaucoup
news.
D'erreurs aujourd'hui.
Ouais, ah, soyons précis dans la news.
Vous dites beaucoup de bêtises.
Ouais, et pourtant, c'est pas faute de l'avoir lu de nombreuses reprises. Mais c'est vrai, vous devenez technicien à la télévision.
Ouais,
vous,
ça, c'est vrai.
Vous m'arrêtez dès que je me trompe. Hein. Vous prenez des cours de théâtre à Paris.
Voilà.
Vous devenez acteur, metteur en scène. Et en
non,
2009...
Je suis un peu acteur, j'ai pris des cours de théâtre.
Vous inventez le fil à couper le beurre.
Voilà, c'est ça.
Vous devenez champion olympique.
J'essaye
de
devenir acteur. J'essaye de devenir acteur et devant l'impossibilité de la chose, j'essaye d'écrire des scénarios, de les vendre et voilà. Donc je deviens réalisateur.
Alors, c'est pas vous, hein. Donc.
Bah, non, c'est pas. C'est
alors
pas
vous n'êtes pas du tout les géris de Babybel, tout ça.
Non,
en fait, c'est pas. Oui, c'est pas du tout vous qu'on voulait inviter.
Ah,
désolé.
Je ne sais pas quelle source de confiance.
Lisez une phrase sur deux, parce qu'il y a une info juste une phrase sur deux. Donc si vous commencez par la bonne phrase, vous allez retomber sur vos pieds.
Attendez, ça me tue, ça. C'est le truc qui me tue. Parce que,
parce que même dans Wikipédia, je suis même pas sûr qu'il soit là. Qui vous a dit ça? On dirait des fausses informations du Front National.
Heureusement qu'on n'est pas en direct. Bon, vous êtes qui?
C'est qui?
Non, mais attendez. Bon, en 2009, vous réalisez votre premier long métrage, voilà. Mademoiselle Chambon. Ramenez-moi la personne qui m'a fait la doc.
Ah, vous faites pas votre doc vous-même.
Mon premier long métrage, il est en 99. Il s'appelle Le Bleu des Villes.
Après, non, c'est un moyen métrage.
Non, Le Bleu des Villes, c'est un long métrage, 1h30. Ça s'appelle un long métrage. Alors, je vais vous donner directement les infos.
Votre groupe sanguin.
Mon groupe, j'allais dire ça.
Votre groupe sanguin.
Mon groupe sanguin, mon adresse et tout ça, combien je gagne. Voilà, donc c'était en 1999, mon premier film. Je vois que ça vous a marqué.
Et la loi du marché, c'est
déjà
vous,
le sixième. Hein, c'est déjà le sixième film, la loi du marché.
Ça, c'est moi. Palme d'or à Cannes.
Prix d'interprétation pour Vincent.
Et Une vie remporte le prestigieux prix Louis Deluc.
Voilà, ça c'est juste.
Ça, c'est juste.
Voilà.
Donc vous êtes...
Stéphane Brisé.
Ah, c'est vrai.
On nous emmerde, celui-là.
Charline Van Nacker, Alex Vizorek, si tu écoutes,
c'est...
j'annule tout.
Est-ce que vous travaillez avec les mêmes personnes que Marine Le Pen pour préparer ses dossiers?
Non, mais là, je vous jure, c'est le truc qui me fout.
Oui, on sait, ça vous fait pas rire du tout.
Écoutez, je vous donne ma doc, je vous laisse lire les sources, etc.
Nous, on a bien rigolé, nous, déjà.
Voilà, bon, écoutez, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes bien le parrain Stéphane Brisé? Je vérifie, parce que si ça se trouve, vous êtes venu pour un nouveau film. Et en fait, moi, je pense que vous êtes le parrain du 15e festival Vision Sociale.
Qui a lieu où?
Près de Cannes, Mandelieu-la-Napoule. Parce que c'est le festival Vision Sociale qui se tient quasiment en même temps que Cannes. Il commence juste un peu plus tard, le du 20 au 27 mai, et qui met en valeur le jeune cinéma européen. Il y a des films de tous les pays européens qui sont diffusés là-bas. Qu'est-ce qui relie les différents cinémas pour espérer en faire peut-être même un cinéma pan-européen? Qu'est-ce qui transcende tous ces films qui fait qu'on a un truc en commun, nous les Européens?
C'est même plus que les Européens, c'est des films du monde entier. Et puis là, l'idée, c'est de réunir des gens, des réalisateurs qui regardent le monde et qui en témoignent au travers de documentaires, de fictions, même, je crois, même d'animations. Et c'est à l'initiative de la CCAS et le CE d'EDF. Et donc, ils ont de l'argent pour organiser ça. Et ce qui est intéressant, en plus, c'est que finalement, la mission au départ des CE, des comités d'entreprise, c'est vraiment d'amener la culture aux salariés. Puis c'est une mission qui s'est un peu délitée avec le temps pour se transformer un peu en agence de voyage dans beaucoup d'entreprises. Et là, ils me contactent, je me renseigne un peu et je vois que c'est quand même des gens qui font des choses pour créer du lien entre la culture, là en l'occurrence du cinéma, et les salariés. Donc je trouvais que l'initiative était intéressante et j'en avais déjà entendu parler.
Alors, ils seront diffusés des films comme, alors je vous lis les résumés, enfin très très, très résumés. Hein. Il y a par exemple un film grec avec un jeune docteur qui s'installe sur une île grecque, qui passe un hiver sans voir personne et puis les touristes affluent, etc. Il y a une jeune ukrainienne qui travaille...
déjà la comédie, déjà dans la
thématique. Il y a une jeune ukrainienne qui travaille comme femme de ménage dans un hôtel de Dortmund ou un autre film belge à la...
Ouais.
Mais non, mais pourquoi vous riez? À la frontière entre la Flandre occidentale et la France, Monique et sa fille Sylvie exploitent le bordel, le ciel flamand. Donc ça s'appelle pas Vision Sociale pour rien, mais c'est un cinéma qui a aussi de l'ambition au-delà de simplement décrire les faits de société dans les différents pays européens, de faire un peu comme la loi du marché, de réveiller des choses.
Regardez le monde, de témoigner de situations, d'un réel. Des fois, il y a aussi des films drôles à l'intérieur de ça. Mais en tout cas, le cinéma, c'est un cinéma qui crée de l'émotion. Alors, des fois, on rit, des fois, on pleure. Mais ce qui est important, c'est d'autant plus aujourd'hui, quoi, de regarder le monde tel qu'il tourne, avec des personnages forts. Il y a aussi ce documentaire incroyable, Fouad Camaré, c'est ça, Fouad Camaré, qui avait eu l'Ours d'Or l'année dernière à Berlin, qui regarde la situation des migrants en Italie, à Lampedusa. C'est démentiel, quoi. C'est un truc d'une puissance incroyable, et il y a plein de films de cet ordre-là. Donc moi, je suis très heureux d'aller découvrir un certain nombre de ces films à Cannes.
À Mandelieu-la-Napoule.
Exactement.
Parce que c'était ce que vous venez de dire des faux.
C'est une fake. Et c'est bien d'être là pour...
Elle va pas vous lâcher.
C'est belge.
Clara,
la loi du marché, le film, votre plus récent film qui a connu un...
Non, parce qu'il y a une vie de non passant.
Oui,
mais la loi du marché a été celui qui a été couronné, qui a le plus marché sur les scènes officielles, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une vision sociale, pour reprendre le nom du festival, vraiment. Et moi, à chaque fois, la question que je me pose, c'est, au fond, que vous a apporté la fiction? Parce que pour dire ce que vous dites dans La loi du marché, qui est l'histoire d'un homme qui se reconvertit en vigile, je le dis pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas vu le film, incarné par Vincent Lindon, et qui prend de plein fouet, en fait, la réalité très anguleuse du monde du travail. Au fond, vous auriez pu finalement prendre votre caméra et avoir une approche plus, entre guillemets, documentaire. Qu'est-ce que vous a apporté la fiction ?
Mais moi, j'emprunte dans cette fiction-là des outils du documentaire, à la fois peut-être dans sa mise en scène, mais surtout dans sa dramaturgie. Une façon de, plutôt que d'enfiler des séquences, un peu de les empiler, comme quand on suit un personnage de documentaire. Et c'est, et dans La Loi du marché et dans le prochain film, il y a Vincent Lindon qui est face à des acteurs non professionnels, qui jouent globalement tous leur propre rôle professionnel à l'écran. Et j'aime cette confrontation de ces outils du documentaire confronté à la fiction, et ça crée une voix, une autre voix que j'invente pas, hein, j'ai pas réinventé l'eau tiède, mais je trouve que cette manière d'injecter du réel à l'intérieur de la fiction est extrêmement passionnant pour éclairer des sujets. Et Kieslowski, par exemple, avait fait beaucoup de documentaires, avait dit, ben, moi je suis passé à la fiction pour mettre ma caméra à des endroits auxquels je pourrais pas accéder avec le documentaire. Donc il y a certainement de cette idée là aussi.
Et voilà pourquoi Stéphane Brisé est le parrain de la 15e édition du Festival de cinéma européen Vision Sociale, qui a lieu du 20 au 27 mai à Cannes, Mandelieu, La Napoule, où il présentera La Loi du marché et Une vie d'ailleurs. Le DVD sort en mars. Love Shack sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Stéphane Brisé, qui parraine la 15e édition du festival Vision Sociale. Le thème cette année, c'est le cinéma européen, avec des jeunes réalisateurs venus de toute l'Europe. C'est du 20 au 27 mai à Cannes, Mandelieu, La Napoule. Et pour entourer Stéphane Brisé, Alex ?
Eh bien, je vois Guillaume Meurice.
Oui, je suis là.
Je vois Rukia Ouédraogo. Je vois Clara Dupont-Mono.
Bonsoir.
Et l'information ?
Elle est là.
Il n'y a pas d'autre choix que de voter en faveur
Le journal de presque 17h17.
Ce qu'il y a de préférable pour notre pays.
Et on commence par les titres.
Oui, hier on a assisté à un naufrage en direct à la télévision.
Oui, la prestation de Marine Le Pen était assez lamentable.
Non. Ah. L'Olympique Lyonnais a pris 4-1. Quelle douille contre l'Ajax.
Ah oui, c'est vrai. Évidemment. Hier soir, le débat entre les deux candidats a passionné la France et en dernière minute, les plans de coupe ont été autorisés.
Oui, la grande perdante de cette décision est sans conteste Nathalie Saint-Cricq, dont on a régulièrement pu déceler qu'elle aurait préféré être Ingrid Betancourt chez les Farc en 2004.
Et les brèves.
Oui, les brèves, c'est pas de la poudre de perlimpinpin.
Ha 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 ha! Aujourd'hui, le 4 mai, oui. C'est la Saint-Florian.
Bonne fête donc, Florian Philippot, qui avait tellement envie de faire la fête ce matin qu'il a raconté n'importe quoi. Il a dit sur CNews, Marine Le Pen a dominé le débat.
Oui. Et interviewée à la sortie de ce débat, Marine Le Pen avait la même impression.
Monsieur Macron est assez agressif, il a des attaques personnelles. Bon, mais c'est en même temps la marque de quelqu'un qui a du mal à répondre sur le fond.
Elle a un bon recul sur elle-même. En psychiatrie, on appelle ça une projection.
Hier, lors de ce débat, on a surtout assisté à un festival de contre-vérité de la part de Marine Le Pen.
Oui, en même temps, elle est honnête sur le fait qu'elle trafique souvent la vérité. On a tous vu son affiche de campagne.
Moment fort du débat, Marine Le Pen s'est prononcée pour que les entreprises utilisent l'écu.
Voilà, et l'entreprise Jackie et Michel confirme qu'elle les utilisait déjà.
Emmanuel Macron a déclaré, lui, qu'en débattant avec Marine Le Pen, je le cite, « on se salit un peu ».
Et ben voilà, il lui reste plus qu'à acheter un lave-linge Whirlpool. Ça aidera peut-être même les salariés de l'usine.
Et ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin, Marine Le Pen a précisé « ceux qui respectent les lois n'ont rien à craindre de moi ».
Ah, du coup, à la place de Marine Le Pen, je ferai très attention à cette Marine Le Pen.
Macron vient de recevoir un soutien de poids.
Oui, Barack Obama.
Oui, il a enregistré un message vidéo diffusé sur le compte Twitter du candidat d'En Marche.
Comme c'est en anglais, je vais traduire. J'admire la campagne d'Emmanuel Macron. Michel trouve aussi que Brigitte Macron a beaucoup de valeur. Au départ, mon épouse et moi soutenions Jean Lassalle. Son programme semblait le plus juste pour l'Europe et le monde, et je ne dis pas ça uniquement parce que je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Marine Le Pen est une menace pour le futur des Français. J'avoue que le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan nous a fait un peu peur, car c'est un très bon maire dans sa ville de Yesterday. J'ai récemment pu être rassuré par Emmanuel Macron et son entourage, car il m'a promis de garder Laurent Saïm en France et qu'il interdirait de remettre un pied aux États-Unis et venir nous enquiquiner à Washington. Bref, je ne vais pas faire de galimatia. Je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron. En avant la France, en marche. Et vive la France.
Thank you, Barack. Voilà. Barack Vizorek. Politique, enfin, dans une interview à l'Obs, François Hollande a déclaré aujourd'hui. Je suis à deux doigts d'être aimé.
Oui, alors deux doigts, oui, mais pour beaucoup de gens, il s'agit quand même des deux majeurs.
Culture. Le comédien Victor Lanoux, héros de Louis la Brocante, est décédé à l'âge de 80 ans.
C'est c'est triste. Et les éditions du Cherche Midi ont été très touchées. Hein. Même pas deux heures après l'annonce, on a reçu ce message.
Je vous le lis. Bonjour, nous avons appris ce matin avec une grande tristesse la disparition de Victor Lanoux, acteur inoubliable. Et il a publié deux livres au Cherche Midi. Laissez flotter les rubans et deux heures à tuer au bord de la piscine.
Voilà, signé le service de presse qui on souhaite de se remettre de ce moment difficile par des ventes en hausse.
Allez, une brève.
Oui, à Rennes, on peut voir en ce moment une exposition photo pour dire stop au racisme anti-roux. Voilà, c'est important. Alors j'espère qu'ils n'ont pas fait l'erreur de mettre un cliché de Brice Hortefeux, sinon c'est contre-productif.
Stéphane Brisé, on va profiter de votre présence pour aborder ce premier sujet, le débat. Quand on pense qu'on a attendu ça pendant 5 ans, tout ça pour se faire engueuler toute la soirée dans le téléviseur. Voilà, on vous a résumé le débat là. Alors attention, chez vous, attention, baissez le son, éloignez-vous du poste, ça peut être dangereux, attention.
Allez, cogne-moi, petite frappe.
Mais vous fâchez pas.
On est certain, petite frappe.
Non mais permettez, malgré ça, je vois pas pourquoi je me laisserais faire.
Allez, cogne-moi.
Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté.
Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire.
La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle.
Toi, tu commences à me baver sur les mots.
Vous avez de la chance.
Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
L'œuvre complète de Chuck Norris, mixée avec la chèvre Pierre Richard par Anne-Sophie Ladonne, notre réalisatrice. Merci à elle. Stéphane Brisé, j'imagine que vous étiez au théâtre, au cinéma ou devant votre téléviseur hier.
Non, je revenais de repérage dans le sud de la France et j'étais dans le train. Et j'ai écouté le débat dans le train,
en audio. Ah.
Et c'est marrant parce que moi, je visualisais Marine Le Pen à droite, à droite, très bord-cadre. Et en fait, c'était l'inverse visuellement. Et c'est vachement intéressant d'entendre le débat, parce que vous êtes qu'avec les mots, et quelque chose qui dépasse les mots. Et j'ai trouvé ça très vertigineux à la fin. On avait l'impression que les coutures craquaient chez Marine Le Pen, et il y avait un peu, en termes pathologiques, elle devenait un peu folle, avec des ricanements, des trucs un peu désordonnés, au-delà du discours et de la brutalité du discours. et je ne suis pas forcément pour autant macroniste, on est bien d'accord.
On avait deviné.
Il y a quand même quelque chose d'une violence et d'une brutalité, mais en même temps, on accède à une part de la pathologie de la femme que j'ai trouvé assez effrayant, assez tétanisant, sidérant.
Et donc le réalisateur, l'homme d'image, qui a suivi le débat en audio, vous avez perçu des choses
Je ne pense pas avoir raté grand-chose en termes de mise en scène non plus.
Si elle a imité les extraterrestres.
Peut-être vous n'avez pas...
Mais et moi, je ne fais jamais de plan de coupe. Par exemple.
Donc, comment vous avez perçu la gestion par les deux journalistes qui sont donc les deux chefs de service?
Il y avait deux journalistes.
Voilà. C'est ça. Donc, en audio, c'est pas passé.
En audio, ça n'est pas passé du tout.
D'accord. Qu'est-ce que ça raconte, peut-être, ou de la France d'aujourd'hui, ou de notre système politique, cette brutalité qu'on a entendue hier?
C'est ce que ça traduit, j'imagine, de la psyché collective. En fait, on est dans un pays qui est dans un grand désarroi. Donc, à ce désarroi, on répond comment? Ça serait bien de répondre par de l'intelligence, de la réflexion, et on répond avec beaucoup de brutalité. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de brutalité. Il a eu l'intelligence de pas lui rentrer dedans. Et des fois, on se dit, quelle drogue on peut prendre pour résister à ça? Mais tout ça est enveloppé dans du papier à chocolat quand même. Macron, c'est super d'entendre un pays qui va aller de l'avant. Il y a un côté Tony Blair là-dedans. Mais sous le papier à chocolat, il y a une autre brutalité, clairement.
Ouais, mais ça fait des beaux films. La loi du marché, voilà. Après, la politique de Macron, après, vous avez des palmes d'or.
Que ce soit l'un ou l'autre qui passe, ça fait des beaux films. Il y en a un, par contre, il y a quelque chose de terrifiant. Et de l'autre côté, il y a aussi une autre terreur, mais qui va toucher les gens en grande fragilité, clairement.
Et on va en reparler tout à l'heure, notamment avec ce statut d'auto-entrepreneur, tout à l'heure avec vous, Stéphane Brisé. Rukyata Traoré, vous êtes en notre compagnie aujourd'hui.
Oui, Drago.
Mais oui.
Pourquoi Traoré? Parce que je ne fais que des conneries.
C'est les mêmes infos, je crois, que moi.
Mais Traoré, ça vient du Burkina aussi.
Oui, c'est vrai. C'est une allusion à la chanteuse.
Exactement. On en a parlé ce matin.
Non, mais je ne chante pas pour l'instant.
Mais elle n'est pas drôle non plus. Hein. Allons-y.
C'est vous quand même qu'on veut entendre, Rukyata.
Elvis Presley, on vous écoute.
Oh yeah.
Vous êtes à côté de Ridley Scott, on vous écoute.
Je dois vous avouer que je ne me sens pas très bien.
Ah on comprend.
Depuis le soir du premier tour des élections présidentielles, je n'ai pas pu fermer l'œil gauche. Par les temps qui courent, la prudence s'impose. Mais qui s'est-il donc passé dimanche dernier? Certaines personnes ont eu peur et se sont rassurées en offrant à Marine Le Pen un ticket pour le second tour. Et de quoi ont-ils peur? Du monde entier. Rien que ça. Ils appellent ça la mondialisation. Si je comprends bien, ils refusent que la France fasse partie du monde. Ils veulent des frontières solides, voire des murs entre eux et le reste du monde. Vous voyez l'ampleur du problème? Du coup, les Lepenistes ont peur de tout le monde, mais surtout des étrangers ou de ceux qui ressemblent à des étrangers. Moi, par exemple. Et moi qui suis française, mais pas que, je deviens pour eux l'incarnation de ce monde menaçant, presque déjà accusé de voler les pains au chocolat des enfants et le boulot de leurs parents. Mais pire encore, je suis soupçonnée de vouloir les remplacer. Ils appellent ça le grand remplacement. Moi, vous savez pourtant, les pains au chocolat, moi je m'en fous. Hein. Je préfère les galettes au mille, au beurre de qualité. Hein. Vous devrez essayer au petit déjeuner, c'est un régal. Bon, bref. Le lendemain, j'étais en train de tourner en rond comme si j'avais mangé des fourmis. Alors, je suis allée marcher 10 km pour réfléchir à la meilleure façon de sortir la France de ce merdier et digérer mon mafé de la veille. C'est notre boulot à nous, les Africains, de sauver la France. Oui, c'est mon oncle burkinabé, tirailleur burkinabé, qui m'a dit ça.
Ah, c'est pas Traoré, hein, c'est Ouédraogo. Hein,
voilà.
C'est le même.
D'abord, j'ai pensé à kidnapper Marine Le Pen avant le second tour. Mais vous avez vu, le monstre de garde-corps qu'elle a, le mogol, il me fait peur. Et puis même si j'arrive à la kidnapper, mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire après? Je ne veux pas quand même la ramener chez moi, elle qui ne veut pas de moi chez elle. Ensuite, je me suis dit que je pourrais lui préparer un bouzougou au Sumbala. Alors, c'est une tête de mouton bouillie avec une épice de genou qui ferait passer vos menstrues et vos épaules pour du Chanel numéro 5. Un vrai Burkinabé vendrait sa mère rien que pour un bouzougou. Je mettrais dans la marmite un gris-gris qui la ferait dormir jusqu'à ce qu'un prince charmant vienne la réveiller d'un baiser d'amour. Bon, on devrait être peinard pendant un bon moment au moins, hein. Mais on m'a dit déjà qu'elle fait une allergie au couscous, alors le bouzougou, faut pas y compter. En entrant de mes 10 km, je croisais des gens de mon village périurbain. Ils me regardaient, je les regardais. 28% d'entre eux ont voté Marine Le Pen dimanche dernier. J'avais l'impression d'être l'irruption soudaine du monde entier au milieu de leur campagne. Je devenais parano. Alors, arrivé chez moi, j'ai appelé mon oncle qui a toujours réponse à tout. Je lui ai expliqué que je devais absolument faire quelque chose, car si le FN gagne les élections, c'est la démocratie qui est menacée. Il m'a dit, la quoi ? La démocratie ? Ce truc-là où les gens votent à 97% pour élire un président à vie ? Bon, évidemment, vu d'Afrique, le concept de la démocratie est un peu flou. Alors je lui ai dit, tonton, c'est comme si les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité pour lesquelles tu t'es battu quand tu étais tirailleur étaient de nouveau menacées. Il m'a répondu, des voleurs ? Moi, je me suis battu pour des voleurs, moi ? J'ai dit, non, tonton, des valeurs. Bon, visiblement, mon oncle ne comprenait pas très bien la situation. Alors, j'ai pris un raccourci. Bon, tonton, c'est comme si Marine Le Pen voulait te reprendre tes médailles de héros de guerre que le général de Gaulle t'a donné. Mais médailles ! Oh, mais elle n'est pas bien, cette dame-là, hein ? Mais son père, il dit quoi, même son papa ? Tu sais, elle et son père ne se parlent plus. Oh, ça perd les poupettes ! Oh ! Mais c'est pas bon signe, ça, ma fille. Après un long minute de silence, mon oncle m'a dit, tu te souviens de ce qu'on fait ici quand c'est l'éclipse ? Oui, tonton. Eh bien, fais ça et invite tes amis et tes voisins à faire avec toi. Alors, j'explique. Quand c'est l'éclipse chez moi, on dit que c'est le chat qui est en train d'avaler la lune. Et si on le laisse faire, on vivra dans les ténèbres pour toujours. Alors, pour effrayer le chat, on sort des bidons, des marmites, des casseroles, des tonneaux, bref, tout ce sur quoi on peut taper soif les femmes, bien sûr, afin de faire le maximum de bruit pour que le chat ait peur et qu'il recrache la lune. Jusqu'à là, ça marchait. Alors, moi, Rukyata Ouédraogo, j'invite les Français, les presque Français, les non-Français, les pas encore Français, à venir me rejoindre avec tous vos casseroles, afin que nous fassions ensemble beaucoup de bruit, afin de chasser les ténèbres qui menacent notre chère patrie. Et pour en finir, comme on dit chez moi, nous devons tous nous respecter les uns et les autres. Car comme dit mon oncle, si tu te comportes comme un crabe, on te mangera avec beaucoup de bruit. Merci.
Merci Rukyata Ouédraogo. Et on vient, on fait du bruit. Ouais, on fait du bruit. Voilà.
Les casseroles.
Merci Rukyata. Et on peut vous revoir sur franceinter.fr, sur la page de notre émission, aussi sur Facebook, en vidéo. Merci Rukyata Ouédraogo. Stéphane Brisé est en notre compagnie. Et tiens, on va écouter un titre dont vous avez réalisé le clip. Il s'appelle La loi du marché. C'est Cyril Mokayesh en duo avec Bernard Lavillier. Vous êtes sur France Inter.
On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir. On vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endettée, endettée, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son Altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittaliser à Florange, l'or et l'acier. On vous laisse cet étrange capitaliser sur la précarité. On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie. Chez Lidl, le pack de bière a des pulsions suicidaires. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. Se refermer, homme à la mer émigré, cap sur l'Angleterre,
depuis la Guinée. T'as le temps d'apprendre à nager. On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée. Enfant de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher. De quoi vous distraire pour quelques années.
Bernard Lavilliers, Cyril Mokayesh, La loi du marché. Cyril Mokayesh qui a écrit en sortant de votre film, alors Stéphane.
C'est ce qu'il m'a dit, il était allé voir le film et il m'a dit voilà, en sortant de la projection, j'ai imaginé cette chanson, je l'ai écrite et puis on s'est rencontrés et puis il m'a dit bah, est-ce que tu aimerais réaliser le film de la chanson qui porte le nom du film. Voilà.
Stéphane Brisé avec nous, le parrain de la 15e édition du festival Vision Sociale qui a lieu à Cannes, Mandelieu, la Napoule, du 20 au 27 mai, donc pendant Cannes, puisqu'on rappelle que Cannes, au départ, la CGT,
c'était la CGT,
les travailleurs, évidemment.
Et après, ça a été les petits fours et le tapis rouge.
Et voilà.
Et la cocaïne.
Comme vous avez le micro, Guillaume Meurice, je vous le laisse.
Eh bien, je vais vous parler, évidemment, du débat d'hier soir. Macron contre Le Pen, présenté par deux ficus, deux journalistes, pardon, excusez-moi. Moi, j'ai suivi ce débat avec le groupe Les Jeunes avec Macron.
C'est la bonne idée.
Oui, qui se réunissait hier à l'Hippopotamus de la Porte de Bagnolet. Qu'est-ce que je raconte ? Au Loft Louvre, dans le premier arrondissement de Paris. Excusez-moi, je confonds avec Les Jeunes avec Philippe Poutou. J'étais donc avec eux en totale immersion et pour parfaitement décrypter les enjeux de la soirée, j'ai plutôt choisi le groupe Les Très Très Jeunes avec Macron, Clarisse, 9 ans, et sa sœur Léa, 10 ans, qui avaient donc été trimballées là par leurs parents. Papa, est-ce qu'on peut aller à Europa Park ? Non, on va aller voir les propositions d'Emmanuel sur la TVA intracommunautaire. Hashtag youpi, hashtag j'appelle la DAS. Voilà, donc Clarisse et Léa. Alors les prénoms ont été modifiés volontairement parce que je voulais pas niquer une éventuelle carrière de punk à chien pour elle. Ça ferait mauvais genre d'avoir commencé chez Macron. Alors on commence tout de suite avec Léa. Est-ce qu'elle s'intéresse à la politique ?
Non, j'aime pas.
Ah, t'aimes pas ? Mais alors là, tu vas passer une bonne soirée alors ?
Oui !
T'es parti pour 3 heures de politique ?
Oui !
Ça te plaît quand même ?
Non ! Je vais dormir !
Et non, tu ne vas pas dormir parce que Marine Le Pen va te gueuler dans les oreilles, comme si on lui avait volé ses frites à la cantoche. À mon avis, c'est plus facile de faire une sieste au pied d'un Airbus A380 au décollage ou dans un concert de Joey Star. Alors poursuivons l'analyse de la soirée avec Léa.
Mais sinon, t'as une préférence entre Marine Le Pen et...
Macron.
Ah quand même, t'aimes bien Macron.
Oui.
Qu'est-ce qui te plaît chez Macron ?
Bah qui veut sauver la planète.
Voilà. Ah oui, alors, il y a une petite confusion avec Batman là par contre. Hein. C'est vrai que Marine Le Pen hier ressemblait un petit peu au Joker. Mais attention, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ils n'ont pas parlé écologie une seule minute en 3 heures. Donc on va tous crever, mais avec un taux de CSG réduit. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle, je trouve, de la soirée. Alors, sauver la planète, admettons, poursuivons.
Marine Le Pen, elle veut pas ?
Bah non, et en plus, elle veut nous sortir de la France.
Marine Le Pen, elle veut nous sortir de la France ? Ouais, ça c'est chaud. Comment elle va faire ?
Je sais pas.
Attendez, ça va trop loin cette histoire-là. De l'Europe, d'accord, va sortir de la France. C'est quoi la suite ? De l'Auvergne, du Puy-de-Dôme, de Clermont-Ferrand ? Je demande à ce que tout le monde se calme, hein, c'est important. À moins que la petite soit fichée S. Et dans ce cas-là, elle est menacée de se faire expulser si Marine est élue. C'est vrai que maintenant que j'y pense, elle avait peut-être bien un t-shirt Aboubacar Al-Bak Barbie. Bon, alors du coup, j'ai flippé, j'ai interrogé sa sœur, qui sans surprise soutient qui dans le débat ?
Je suis pour Macron.
Alors pourquoi ?
D'extrême gauche.
Oh. Emmanuel Macron ?
Oui, alors que Marine Le Pen, elle est d'extrême droite.
Alors ça, ouais, mais est-ce qu'on est sûr que Emmanuel Macron, il est d'extrême gauche ?
Bah non, il est au milieu.
Ah voilà, il est au milieu.
Oui.
Au milieu de l'extrême gauche ?
Non, mais on n'arrive pas à le situer, hein, c'est toujours, on n'y arrive pas. Alors c'est sûr, à côté de Le Pen, il passe pour un zadiste, hein, Emmanuel Macron. Mais c'est pas l'exploit du siècle non plus, en forçant un peu Estrosi pourrait y arriver aussi. Donc ça veut rien dire du tout. Alors la particularité de ces deux sœurs, c'est le rapport qu'elles ont aux élections. Parce que dans leurs classes respectives, elles se présentent comme déléguées avec un succès relatif pour Léa.
J'ai tout le temps 0 vote.
Ah, tu te présentes quand même ou pas ?
Oui, mais j'ai 0 vote tout le temps.
Toi, tu perds.
Pas moi qui vote pour moi, mais sinon j'ai que 1 vote.
T'es un petit peu la Benoît Hamon de ta classe, quoi, on peut dire.
Ouais, beaucoup, beaucoup. Même sa copine Ségolène, elle vote pas pour elle. Ni sa voisine de classe, Jean-Yvette Le Drian. La petite Valsette non plus. Enfin, c'est la cata. Alors, sa sœur, en revanche, c'est autre chose. Ah. Est-ce qu'elle a déjà été déléguée?
Oui, je l'ai été deux fois.
Comment tu fais pour gagner à chaque fois?
Je me fais des amis.
Tu te fais plein d'amis et après, ils votent pour toi.
Pas tout à fait. Enfin, on écrit des textes.
T'avais un programme de délégué de classe?
Bah oui.
Qu'est-ce que tu leur disais, par exemple?
Si je suis délégué de classe, je ferai l'audien dans la classe, etc.
Ah, mais en fait, c'est toi qui as écrit le programme d'Emmanuel Macron.
Oui.
Ah, il est là, le scandale. C'est pas un compte aux Bahamas, c'est un compte à jouer club, putain. Je préviens immédiatement Mediapart et le journal de Mickey. Ça devient n'importe quoi. Il est temps de conclure avec donc ce programme, hein, ce slogan « Faire le bien », vous l'avez compris, même si ça ressemble fort à un élément de langage, à du Macron, quoi.
C'est un peu du Macron, parce que Macron, il fera le bien dans la France.
Ouais, mais il va faire quoi, alors, concrètement?
Je sais pas,
toi, comment t'as fait pour faire du bien dans la classe?
Tous ceux qui sont en difficulté, pas se moquer d'eux.
Ah ben ça serait pas mal, voilà. Aider ceux qui sont en difficulté, voire arrêter de se foutre de la gueule du monde, la politique en ressortirait grandie. Parce qu'honnêtement, ce qu'on a vu hier, ça ressemblait plutôt à des enfantillages.
Guillaume Meurice, merci. Vous êtes sur France Inter en compagnie de Stéphane Brisé. À venir la chronique de Clara Dupont, c'est Dupont-Monovo, hein, c'est ça?
Voilà, je suis au festival à être tard de Vision Sociale.
Rukyatta Wedrogo est avec nous, les garçons. Allez, sujet numéro 2. Ils sont 7000 à pédaler dans toute la France pour nous livrer des repas. Ils ont les contraintes des salariés, mais pas les avantages, ou du moins pas tous. Et dans cette galère, ces coursiers à vélo sont appelés des auto-entrepreneurs. C'est tellement plus chic. Voici le portrait parmi d'autres d'un auto-entrepreneur à vélo.
Issu d'une famille paysanne, Guilin, depuis sa plus tendre enfance, rêvait de s'en sortir tout seul, sans rien demander à personne. Pour échapper à une scolarité difficile, pour laquelle il ne se sentait aucune disposition, il avait choisi de s'entraîner à la dure, en parcourant chaque jour, comme Brick Scott, de nombreux kilomètres à vélo avec un steak et une bière dans sa musette.
La voix d'Antoine de Caunes dans le vélo de Guilin Lambert. Stéphane Brisé, on a imaginé que ce sujet, sans doute, réveillait votre fibre sociale. Ces auto-entrepreneurs, qui en fait sont coursiers à vélo, qui nous livrent les repas, qui doivent acheter leur matériel, qui, quand ils se cassent la gueule, ben, doivent le réparer eux-mêmes, et puis ils ne sont pas toujours couverts. C'est en train de s'améliorer, mais ce n'est pas toujours le cas. Et qui se réveillent un peu comme les Uber qui déchantent. Ça dit quoi?
C'est intéressant, effectivement. C'est comme les chauffeurs d'Uber. Alors, l'investissement sur le vélo est moins important que sur la voiture, qu'ils n'ont pas 40 000 euros à sortir. Mais leur réalité sociale, elle est aussi douloureuse, quoi. Et c'est des gens qui sont... On dit qu'ils sont indépendants, en tout cas la plateforme dit que vous êtes indépendant, mais en même temps ils ont un lien de subordination totale avec leur c'est pas leur patron officiellement, mais ça devient leur patron. Donc ils ont que les désavantages de la situation. Et pendant ce temps-là, les plateformes, après c'est des idées de génie, hein. Les mecs qui ont créé les plateformes, je trouve que c'est brillantissime. Ouais. Et comme le système qui est en place leur permet de d'évoluer en toute tranquillité. Alors pourquoi ils le feraient pas? C'est justement à ce moment-là aux politiques de créer des systèmes. Alors même s'ils sont un tout petit peu à la traîne sur le coup. De recoller les wagons et d'inventer des systèmes pour protéger aussi ses salariés.
C'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité, un petit peu, c'est ça. À choisir entre serveur dans un bar et coursier à vélo, qu'est-ce qui est le...
Par rapport à la météo, vaut mieux être serveur.
Oui, alors justement, vous parlez de météo. Il y a la prime d'intempéries qui a finalement été rétablie, parce que comme ils se fédèrent, ces coursiers à vélo qui gueulent, etc., heureusement, ils obtiennent des choses. Mais la prime d'intempéries qui a été rétablie, c'est quand même Deliveroo qui détermine si le temps est pluvieux ou neigeux. Clara Dupont-Mono.
Je suis toujours stupéfaite. J'aurais avoir le sentiment de Stéphane Brisé sur la façon dont c'est enrobé et les mots, le langage qu'on emploie justement pour dire, Charline le mentionnait, auto-entrepreneur pour pas dire complètement exploité, de la même façon qu'on dit remercier pour dire licencié, de la même façon qu'on dit flexi-sécurité pour dire
ceinture de sécurité en élastique.
Ben oui, c'est un peu
plan
ça,
sauvegarde de l'emploi pour dire on vous renvoie tous. Quoi. Mais les mots ont un sens évidemment, mais ils sont pas inventés
vous,
par hasard.
Homme
attention
de l'image,
Clara, vous venez de gauche là,
non,
je
mais,
vous préviens.
Non, c'est votre vision à vous de gauche, mais vous, homme de l'image, comment est-ce que justement vous entendez ces mots-là, ça vous heurte aussi, la différence entre la réalité et l'appellation?
Ça m'interpelle, ça me fascine. Effectivement, tout ce langage qui est inventé intelligemment inventé en plus par ceux qui en bénéficient pour donner l'illusion à des gens qui vivent quelque chose de fort, d'une forme d'autonomie, auto-entrepreneur. Sur le papier, c'est bien quoi. Et j'imagine, en fait, j'avais besoin récemment de factures d'Uber. Alors c'était avant d'arrêter Uber, parce qu'ils payent pas leurs impôts en France, mais j'avais besoin de factures pour me faire rembourser. Et je découvre là en fait qu'ils ont, c'est des entreprises individuelles ce qu'on raconte là. Et je dis mais effectivement, Macron il peut dire, je vois toutes ces entreprises, le nombre d'entreprises qui se développent, mais c'est des entreprises de précarité.
Elles sont individuelles aussi. Oui.
Donc derrière les mots et derrière les chiffres, on peut dire ce qu'on veut.
Stéphane Brisé, en face de vous, donc Clara Dupont-Monod. Clara, évadons-nous un petit peu avec vous.
Oh bah pas tant que ça, parce qu'on va être un peu sur l'action. Alors on passe à autre chose. Non, parce que l'actualité, Charline, on n'y échappera pas. C'est évidemment le duel du 7 mai qui se profile entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Or, il se trouve que le duel n'est pas l'apanage de la politique, comme l'a écrit d'ailleurs le magazine Marianne, puisque, comme d'habitude,
vous travaillez.
J'y travaille et nous avons fait un article dessus qui est très intéressant, parce que nous nous sommes aperçus que la littérature, alors je vous le serine chaque jeudi, mais comme d'habitude, elle a l'expérience de notre actualité, elle a déjà tout devancé, mais l'idée d'affrontement final, en tout cas la littérature, elle connaît à peu près par cœur. On ne compte plus les batailles d'écrivains, et là aussi c'est la même règle du jeu, c'est-à-dire deux candidats et une seule place. Par exemple, toute sa vie, Victor Hugo s'est opposé au critique et écrivain Sainte-Beuve, qu'il appelait Sainte-Bave, parce qu'il aurait pu être vanneur dans Si tu écoutes, j'annule tout. Et le fait que Sainte-Beuve ait troussé la femme de Victor Hugo n'était peut-être pas complètement étranger à cette animosité. Mais de la même façon, Gustave Flaubert a détestait. Il a affronté d'ailleurs Alfred de Musset. Il a écrit « Son génie s'est noyé dans un tonneau et vieille guenille maintenant s'y effiloque de pourriture. » Ça, c'est de la vanne. Prenez-en de la graine, les snipers de la vanne. Mais là aussi, leur fracture était littéraire d'une part, mais comme par hasard, comme pour Hugo et Sainte-Beuve, il se trouve que Alfred de Musset draguait assez ferme Louise Collet, par ailleurs petite amie de Gustave Flaubert. Parfois, femmes et littérature se confondent.
Toujours les nanas qui foutent la merde, en gros, entre les écrivains.
C'est un peu ça. Hein, cela dit, vous allez voir, des fois, les hommes mettent leurs graines, entre guillemets, puisque Racine et Corneille, ces deux rivaux, aimaient ensemble la marquise du Parc, et elle est morte en couche en 1668, certainement, ou probablement en tout cas, engrossée par Racine. Et si je vous parle de Racine et Corneille, c'est parce que c'est sans doute un des duels, moi, dans l'histoire littéraire, que je préfère. À l'époque, au XVIIe siècle, Racine, c'est le nouveau People. Pas le Macron, parce que ce serait exagéré. Mais non, mais c'est vrai, il y a le côté un peu fringant, nouveauté, il est prometteur. Et face à lui, il y a la grande ombre que tout le monde connaît. Alors que pour le coup, tout le monde respecte. Mais c'est Corneille. C'est-à-dire que c'est le grand génie qui a déjà sa gloire, qui est auréolée. C'est en gros l'étoile montante contre l'astre déclinant. Et à l'automne 1670, la France bruisse d'excitation, non pas parce qu'il y aura un débat entre les deux, mais parce que les deux hommes vont jouer à quelques jours d'intervalle la même pièce de théâtre qui est Bérénice. Donc c'est un duel de théâtre, évidemment, sans gicler de sang. Mais comme en politique, au fond, c'est un duel sans merci. Et lequel des deux, tout le monde se demande ça, lequel des deux, Racine ou Corneille, remportera les suffrages, comme par hasard, de Louis XIV ? Parce qu'il s'agit bien de ça. Le roi devra choisir le mâle dominant de la scène française. Un peu comme nous dimanche, hein, le mâle dominant de la scène française, c'est ça. Alors on voit déjà les clans qui se dessinent, on voit les ralliements. Par exemple, Molière se range du côté de Corneille. D'ailleurs, il lui prête sa troupe, il lui dit « écoute, prends ma troupe, celle du Palais Royal ». Il se trouve que Racine a aussi piqué la petite copine de Molière, donc voilà, forcément, voilà, il a un peu mauvais.
Regardez votre club chez vous, là, les gars.
Mais le coup d'envoi est lancé. La première de Bérénice de Racine a lieu le 21 novembre 1670 et celle de Corneille se déroule le 28 novembre.
Il s'appelait Titus et Bérénice, si je ne me...
Exactement, merci Alex. Et c'est Racine...
Il a placé Tob et Titus en Bérénice.
Et c'est Racine qui gagne. Quand Louis XIV exige de voir sa pièce en représentation privée au Palais des Tuileries, tout le monde comprend que c'est plié, ce sera Racine l'élu, finalement. Et donc Corneille se retire sur la pointe des pieds, il n'écrira plus que, entre guillemets, deux pièces, mais il se retire loin des Sunlight.
Des chansons de R&B aussi, un petit peu.
Ouais. Toute notre histoire est émaillée de ce genre de duel sublime, mais parfois beaucoup plus violent. Il faut voir les échanges de lettres entre, par exemple, Aragon et Breton, qui se sont haïs, mais aussi profondément admirés. Et juste un exemple, Louis Aragon, alors qu'il a 20 ans, écrit à Breton « Tu n'as rien à craindre », il souligne, pour le moment. Et ce qui fait le prix de notre amitié, c'est la dramatique certitude qu'un jour, nous nous tuerons à mort. Mais c'est magnifique. Et ça dit tout, en fait. En tout cas, ça dit surtout que le duel n'est pas qu'une affaire présidentielle.
Merci Clara Dupont-Monod. Et pour nous évader vraiment, samedi à 19h20, qui sera votre invitée dans la muse-bouche ?
Vénus Kourigata, une grande dame libanaise qui écrit des contes orientaux sublimes.
Merci, Clara.
Son livre s'appelle « L'adieu à la femme rouge ».
Très bien. Et Corneille, c'est pas du R&B, hein, juste pour vous dire, parce que comme on fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui, on va tout mettre bien clean.
Voilà. Ça vous apprendra.
Sauf si je me trompe, dites-moi.
Je dirais comme vous, voilà. Je n'y connais rien.
Mais voilà, c'est bien ce que je pensais.
C'est de la country. C'est de la country. Bah oui.
Stéphane Brisé, mais où est-ce que vous êtes tombé aujourd'hui ? C'est quand même fou. Heureusement, vous allez.
Non, il regrette.
Non, je vous dis, vous gagnez de l'argent en faisant ça.
Par le service public ? On est payé par le public.
Un bout de mes impôts.
Par vos impôts, bien sûr.
On va vous le rendre.
Mais vous savez quoi ? On va rappeler que vous êtes parrain de la 15e édition du festival Vision Sociale qui aura lieu en même temps que Cannes du 20 au 27 mai à Cannes-Mandelieu-la-Napoule avec le thème Europe et de jeunes réalisateurs européens. Troisième sujet avec vous, l'acteur belgo-marocain Mourad Zeghendi a joué dans Dikenek, dans JCVD, le film de Jean-Claude Van Damme, et dans Taxi 4. Et il vient de refuser ce qui aurait pu être le rôle de sa vie, un rôle dans le dernier Brian De Palma, réalisateur de Scarface, des Incorruptibles, de Mission Impossible. Mourad Zeghendi n'a pas voulu incarner un djihadiste de Molenbeek parce qu'il en a marre que les rôles de terroristes soient toujours joués par des Arabes. Alors écoutez-le, il s'explique dans une vidéo. Pour une fois, c'est le véritable son, c'est la vraie vidéo. Écoutez.
J'aurais jamais cru de ma vie que je refuserais un film pour Brian De Palma, t'imagines ? Le genre de truc qui va t'arriver une fois dans ta live et je dis non. Brian De Palma, un monstre sacré du cinéma. Et le rôle qu'on me propose, je vous le donne en mille, c'est quoi ? Un terroriste de Molenbeek. Et donc j'ai dû dire non à Brian De Palma. Putain, c'est terrible.
Et voilà, Mourad Zeghendi. Alors il dit, avant, on demandait aux Arabes comme moi de jouer les voyous, et maintenant on est passé aux terroristes. On reste dans le cliché, et ça à 36 ans, je peux pas l'accepter.
Depuis, Hugh Grant a accepté le rôle de terroriste à Molenbeek.
Et donc le gars... Il y a une forme de je sais pas, de courage. Parce que on est ébahi par ce choix.
Il communique dessus.
Oui,
non, mais il l'a mis sur sa page Facebook.
D'accord.
Oui, après, ça a fait beaucoup parler, évidemment.
Qu'est-ce qu'il fait de cette information après, pourquoi pas un rôle de terroriste ? Après, c'est quel est le rôle, quoi ? Si le rôle est pauvre, qui se prononce là-dessus aussi ? Mais c'est pas le fait de refuser le rôle à Brian De Palma. S'il dit c'est écrit avec les pieds, ça ressemble à rien. S'il met son talent au service d'un film intelligent. Alors par contre, il peut dire, non mais le film, j'ai lu le scénario, c'est vraiment nul.
Alors,
j'ai pas envie de participer à ça.
Il dit, c'est beaucoup trop cliché et cette problématique mérite un scénario bien plus fouillé que cela pour ne pas renforcer la peur de l'autre, déjà bien trop présente dans notre société.
Bah, voilà, si sa réflexion va plus loin que son propre rôle, pourquoi pas. C'est toujours, qu'est-ce qu'on fait de sa parole, en fait, et de ce refus. Donc là, il communique sur sa page Facebook, mais il sait que ça va être repris par tout le monde. Et puis, est-ce que c'est des fois pas plus malin d'être opportuniste et de prendre le rôle et de communiquer ensuite sur elle, et puis finalement d'occuper une place, de prendre une place. Mais moi, il est un peu comme le gars à la loi du marché. Il dit, voilà, ça me plaît pas. À ma petite place, je dis non. Il le fait savoir, c'est respectable. C'est son point de vue.
Il est brillantissime comme comédien et à mon avis, il réussira par ailleurs en France. Alors, je sais pas si c'est aux États-Unis. Mais...
Rukyata Ouédraogo, vous vous êtes confronté des fois à ça ? On se dit, oh, j'en ai marre de faire l'africaine de service.
On vous donne des rôles de blanche parfois ?
Non, jamais. Ça va être difficile. Hein. La dernière fois, j'ai eu l'occasion de jouer. J'avais juste un petit rôle dans le film Samba avec Omar Sy.
Ah oui,
juste
oui.
Une silhouette. Hein. Et c'est vrai que ça nous colle à la peau parce qu'en fait, dans certains pays, quand on te voit interpréter des rôles, quand tu l'interprètes tellement bien, parfois, il y a des gens qui pensent que tu es vraiment l'incarnation de ce que tu interprètes. Donc du coup, ma mère m'a vue dans ce film et puis elle m'a appelée, elle m'a dit, mais on t'a retiré tes papiers. J'ai dit, mais non, maman, c'est un film.
C'est un autre cas, en effet. Stéphane Brisé, comme vous avez fait l'école de théâtre à Paris.
Mais pas comédien.
Je vous donne un rôle que vous pourrez refuser tellement il n'est pas cliché du tout, parce que évidemment c'est le principe de la fin d'émission, c'est le sketch. Marine Le Pen, comment elle s'est préparée pour être aussi talentueuse à ce débat ? On a voulu savoir. Alors les communicants, c'est Guillaume Meurice, vous Stéphane Brisé et moi-même. Marine Le Pen, c'est Charline Vanhoenacker. Voilà ce qui s'est passé quelques heures avant le débat d'hier.
Bon.
On y va.
Hein. Doucement, Marine, doucement.
Non, mais je vais le déchiqueter, le banquier.
Qu'est-ce qu'on lui a donné? Elle est enragée.
Non, non, mais rien, justement, ça fait une semaine qu'on lui a rien donné à bouffer. Hein.
On l'a mis au même régime que les chiens de son père.
Ouais. Et que les deux journalopes de merdien me fassent pas chier. Hein.
Non, mais ne vous inquiétez pas, on a obtenu de TF1 et France 2 de couper leur micro. Donc,
dites, bon. Les bottins de téléphone que vous m'avez donné, là, qu'est-ce que vous voulez que j'en foute?
C'est pas un bottin, Marine. Ouais. Ce sont vos fiches. Ah. Hein. On vous les a classées par couleur.
Voilà, les vertes, c'est sur la sortie de l'euro, ouais. Le franc, les culs.
Voilà, c'est la stagiaire qui s'en est occupée. Elle est super, vraiment. Ouais.
Les bleus. Marine, c'est les photocopies des fiches de Fillon.
Ah voilà. Oui, je vois. Et les rouges, c'est sur Alstom. Et puis les jaunes, c'est sur SFR.
Ah non, c'est, attention, ouais. C'est l'inverse. C'est les jaunes, c'est sur Alstom. C'est les rouges, c'est sur SFR.
Ah ouais, c'est ce que je dis, quoi. SFR sont les jaunes, de toute façon, et Alstom sont les rouges.
Bon, allez, laisse tomber. De toute façon, c'est pas grave, elle va pas se tromper ce soir.
Alors, sur la fiche violette, on vous a mis quelques mots-clés.
Voilà, quand vous êtes en difficulté, vous les lâchez dans le désordre, ça fait le job.
Voilà, bébé Hollande, caniche de Madame Merkel, terrorisme islamiste, banquier, oligarchie, système et la rotonde.
Voilà. Et pour le terrorisme, alors là.
Ah, pas besoin de fiches, là. Ça, c'est ma matière préférée. Oui, je fais tout de tête.
C'est bien. Ok, tête. Très bien.
Ouais, voilà. Attendez, c'est quoi ce post-it, là? Parmesan, banane, achetez-vous, petit pois, carotte.
Oups, excusez-moi, non, ça c'est ma liste de courses. Maintenant, ça a dû glisser de mon frigo.
Et ma carte blanche, là.
Sur la fiche blanche, c'est cohérent.
Ouais, mais il n'y a rien écrit dessus.
Ça permet une petite fantaisie. C'est pas trop vaille, c'est punk.
Hop. Tiens, vous, en piste.
Allez, attendez. Mon programme, c'est quelle couleur là de...
Votre quoi?
Hein?
Ouh là là.
Et merde, oh putain, je me disais bien, on avait oublié un truc.
Oui, mais on avait pourtant mis la stagiaire dessus.
Ah, non, c'est rien. Utilisez la fiche violette, Marine. Allez, pop, go.
Oh, mais qu'est-ce qu'il va prendre le trader? Hein, papa, il va être si fier de moi.
Probablement pas loin de ça.
Ouais, t'es peut-être passé comme ça. Hier,
voilà, ma carrière d'acteur ne commencera pas cet après-midi.
Mais votre carrière de parrain, oui. Au Festival Vision Sociale, vous êtes dans quelle attente vis-à-vis de... Vous allez avoir une vision globale, vous allez voir tous ces films qui viennent d'Europe sur des thématiques sociales avec des jeunes réalisateurs. Vous avez envie de...
Moi, à chaque fois que je m'installe dans une salle de cinéma, il y a une excitation, je vais découvrir quelque chose. C'est un plaisir très, très basique de spectateur, et puis des rencontres aussi, parce que beaucoup des réalisateurs sont présents, parlent de leurs films et tout. C'est une opportunité, c'est un endroit de privilégié d'être à cet endroit-là.
Et à cette occasion, vous présenterez La loi du marché et Une vie, votre dernier film, qui est une adaptation de Maupassant, évidemment, qui est sorti en DVD en mars. Mmh. Ce sera donc le festival Vision Sociale du 20 au 27 mai à Cannes, Mandelieu, La Napoule, sur le thème de l'Europe. Vous disiez, c'est pas loin de Cannes, hein ? C'est juste à côté.
10 minutes en voiture, donc quand on est à Cannes à ce moment-là, c'est 2 minutes à pied.
Genre. D'accord. C'est un peu le festival alternatif, on peut dire, par rapport à Cannes.
Le off. Festival de résistance.
Ouais, voilà, de résistance. Merci à toute l'équipe. Merci à Pierre Cherette qui nous a aidé à écrire
cette semaine
avec vous, Alex. Merci à Anne-Sophie Ladonne à la réalisation. Merci à Sarah Masson, à Nathalie Romero et à Irène Menahem à la préparation. C'est la fin de cette émission. Et puis, on va vous donner le mot de la fin, c'est-à-dire la réaction à chaud d'Emmanuel Macron, juste après le débat.
Ah, je suis arrivé, j'ai pas eu le temps de poser le journal que votre chien m'a pris au mollet.